Et les électeurs du Front National, je ne veux pas les juger moralement, je veux les convaincre politiquement.
Geoffroy Didier, alors cadre de l'UMP et conseiller régional d'Île-de-France.
Mais il est vrai, effectivement, que je ne souhaite pas qu'il y ait des villes du Front National, parce que ça ne correspond ni à mes convictions, ni à l'idée que je me fais de la République.
Europe 1, le 27 mars 2014, il y a donc 10 ans.
D'abord, ça ne marche pas. Vous en avez eu des villes au Front National. Et à chaque fois, ça a été plus de tensions, plus de délinquance et surtout plus de condamnations. Le Front National qui nous donne pourtant beaucoup de leçons de morale, regardez sur les 4 grandes villes qu'ils ont dirigées, 2 ont donné lieu à des condamnations pour détournement de fonds publics. Jean-Marie Le Chevalier à Toulon et Bruno Maigret à Vitrolles. Et en plus du fait que ça ne marche pas, eh bien je pense surtout qu'au fond, vous n'avez pas envie de régler les problèmes. Et ce pour une raison simple, c'est que les problèmes, vous en faites votre fonds de commerce. Nos souffrances, vous en faites non pas un combat républicain, mais tout simplement votre fonds de commerce politicien.
Depuis 2014, le Front National gère 11 villes en France, dont Villers-Cotterêts, première ville de Picardie à avoir basculé à l'extrême droite.
Ça n'a, je dirais, pas beaucoup changé. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a une volonté de ne pas augmenter les impôts locaux.
Vraiment ? BFM TV, mars 2017.
Depuis son arrivée, le maire a baissé les impôts de 1%. Il a aussi augmenté son salaire, retiré les subventions de la CGT et de la FCPE et modifié les tarifs de la cantine scolaire, plus 1 euro par repas pour les plus modestes.
Alors baisse pour un syndicat ouvrier et les parents d'élèves et hausse pour les plus modestes. Qu'en dit le maire ?
S'implanter et agir localement nous permet de nous mettre nous-mêmes à l'épreuve, de vérifier que ce que nous prenons au niveau national soit crédible et applicable sur le plan concret, sur le terrain.
Dans l'absolu, c'est pas faux. Allons plus au nord, à Hénin-Beaumont, l'AFP, toujours mars 2017.
27 000 habitants, 20% de chômage, mais des rues propres et fleuries. La plupart des administrés sont ravis par l'action du maire et ils le font savoir.
C'est une ville qui bouge, moi.
Il a changé les lumières sur le boulevard du Général de Gaulle. Oui. Et ce qu'il promet, il le fait.
Impressionnant, respect. Remarquez, chômeur dans une ville fleurie et bien éclairée, c'est mieux que rien.
Steve Briouat, protégé de Marine Le Pen, a été élu au premier tour en 2014. Mais derrière le programme axé sur l'assainissement des finances publiques, l'opposition dénonce les méthodes du maire et de son équipe. Des pratiques symptomatiques du Front National selon cet élu des Verts.
Le fait que quelqu'un pense autre chose que sur leur ville, c'est pas possible. Qu'un journaliste produise un article qui n'est pas un article du journal municipal et qui dit juste que si Briouat est fantastique, c'est pas possible. Et donc, moi, je ressens finalement une certaine fébrilité. Et en fait, je pense que même s'ils essayent d'être le gendre idéal, d'être les maires, la vitrine, New Age du Front National, en vrai, ils sont restés les mêmes et ils ne peuvent pas s'empêcher de temps en temps de mettre le petit coup d'intimidation.
Vous avez peut-être connu sa voix, cet élu natif de la ville, c'est bien l'actuelle secrétaire générale écologiste Marine Tondelier. Direction maintenant Mantes-la-Ville, seule commune d'Île-de-France alors gérée par le parti de Marine Le Pen en 2017.
Dès son investiture, le maire honore une promesse de campagne en stoppant net le projet de relocalisation d'une mosquée dans une ancienne trésorerie municipale. Le lieu de culte a finalement ouvert en mai 2016, mais une bataille juridique fait rage entre certains représentants de la communauté musulmane et le maire.
De son côté, il y a une obstination sur la question, c'est même pas juste de la mosquée, de la communauté musulmane de manière générale. Et tout ce qui peut toucher de près ou de loin à la communauté musulmane, il y a des blocages systématiques.
En décembre dernier, Cyril Naut est débouté pour la 3e fois devant le tribunal administratif de Versailles. La Cour estime que son action pour récupérer des locaux de la trésorerie relève du détournement de pouvoir, alors que le dossier de l'association est en règle. À présent, le maire refuse de donner l'autorisation pour rénover le bâtiment.
Selon moi, la République permet effectivement à toutes les communautés religieuses d'exercer leur culte, mais ce n'est pas un maire en l'occurrence, en tout cas pas selon moi. En tout cas, moi, ce n'est pas pour ça que je me suis engagé en politique. Ce n'est pas pour permettre aux musulmans de prier dans une mosquée ou aux juifs de prier dans une synagogue.
Alors, selon lui, peut-être, mais la loi est ainsi faite qu'elle s'applique à tous. Celle de 1905 est passée par là, confirmée par tout un arsenal de textes, dont la Constitution de 58.
La plupart des maires FN ont tenu ces mêmes positions sur les grands thèmes du parti, s'opposant à l'ouverture des mosquées ou coupant les subventions aux organisations portant assistance aux migrants.
Abasourdi par l'arrivée du FN au pouvoir, l'OR a créé une association pour contrer les actions du maire.
Du maire de Beaucaire, dans le Gard, sur la rive droite du Rhône, BFM TV, mars 2017.
Comme la chasse aux impayés de la cantine qui vise, selon elle, la population pauvre.
Il s'attaque à toute la population étrangère et toute la population en difficulté sociale. Pour lui, de toute façon, les pauvres, ce sont forcément les étrangers qui vivent au crochet de l'État avec les allocations familiales. C'est un discours très très réducteur. Hein.
Le maire Julien Sanchez, 33 ans, est un proche de Marine Le Pen. Il est l'un des ambassadeurs de son parti et de façon presque exagérée, il assume la méthode forte.
Et quand on franchit la ligne jaune, ça tombe. C'est-à-dire que je ne suis pas assistante sociale, je ne suis pas là pour aller discuter avec des délinquants, avec des criminels et aller me mettre d'accord avec eux.
Oui, il a bien tapé du poing sur la table, plus précisément la tranche de la main. Bref, là j'entends presque, ils le sont tous, pas vous ? Tous délinquants, tous criminels, vraiment ? Dans ces années-là, un autre phénomène commence à s'observer.
Les équipes municipales frontistes se vident de leurs élus. 400 ont fait défection sur les 1500 que comptait à l'origine le parti. Le record est détenu par l'équipe du maire de Cogolin, Marc-Étienne Lansade, abandonné par 10 membres de la majorité. Anthony Giraud est l'un de ceux qui a quitté la majorité FN. Natif de la région, il exprime publiquement son désaccord avec une ligne politique qu'il souhaiterait plus radicale et critique la vente de plusieurs terrains municipaux à des promoteurs proches du maire.
Je me suis engagé dans une équipe pour un programme, des idées. C'était le Front National tête haute main propre, comme les membres du parti targuent à le dire. Et malheureusement, à Cogolin, c'est plus une histoire de l'immobilier de gros sous qu'une histoire politique.
Et on ne parle pas des kits de campagne, non. Est-ce à dire que des maires, une fois aux affaires et en fond, renient la ligne radicale sur laquelle ils se sont fait élire ? C'est dans l'air, c'est rendu à Belfort en avril 2021.
Dans son appartement, Marie-Laure Duchesnois a fait le grand ménage. Du Rassemblement National, il ne lui reste plus que quelques objets et sa carte d'adhérente, découpée en juin dernier.
J'ai pris le parti de quitter le mouvement et donc c'est le symbole de mon départ définitif. C'était un soulagement parce que j'ai repris ma liberté d'opinion, ma liberté d'expression et je n'avais plus le petit doigt sur la couture, comme le demandent les instances et les cadres du Rassemblement National où il ne faut pas un mot qui dépasse.
Un management jugé brutal, plusieurs défaites électorales, l'effacement des marqueurs traditionnels du parti.
Aujourd'hui, la normalisation, je vais reprendre l'expression de Gilbert Collard, je dirais normalisation piège à con. En fait, on ne sait pas où va le RN, on ne sait pas où va Marine, son programme est fluctuant. J'ai bien peur qu'elle reprenne des propositions de Benoît Hamon si on continue. Darmanin l'a dit, elle s'est ramollie.
Et en Côte d'Or,
conseiller régional sortant, Franck Gaillard n'a pas digéré d'être mal placé sur la liste RN en 2021. Le symptôme, selon lui, d'un parti qui néglige ses élus de terrain.
Ça n'a jamais été respecté sous la mandature de Marine. Quoi. On est là pour engranger des adhésions, on était là pour faire vivre le parti. Quoi. Donc non, plus personne n'y croit et les valeurs qu'elle incarne ne sont pas les miennes.
En tout, une centaine d'élus a quitté le RN depuis 2016. Une fuite des cadres dont fait aussi partie son ami Damien Quentin. Tous deux reprochent à leur ex-patronne de ne plus assumer un discours très radical sur l'immigration.
Marine Le Pen, dans un souci de électoral, pour ne pas froisser certains électeurs, n'employait plus les vrais termes, essayait de nuancer ses propos, mais je pense que ça a causé sa perte.
Et là, la position et les propos d'Éric Zemmour les auront sinon captés, du moins fortement intéressés. Donc manque de radicalité, retour à l'origine du parti, à son essence, ses créateurs. Je sais, en 52 ans d'existence, on a bien le temps de changer plus d'une fois d'orientation. Point d'histoire avec Blast en novembre 2023.
Le Front National a été fondé en 1972 par Jean-Marie Le Pen à l'initiative d'Ordre Nouveau, un groupuscule fasciste et collaborationniste. Aux côtés de Jean-Marie Le Pen, François Brignot, milicien pendant l'occupation. Il dépose les statuts du parti avec Pierre Bousquet, qui a défendu le nazisme jusqu'à sa mort. Pierre Gérard, ancien directeur de la propagande au commissariat général aux questions juives sous Vichy, est devenu secrétaire général du Front National en 1980. Dès 1986, Jean-Marie Le Pen est condamné pour antisémitisme et un an plus tard, il affirme que les chambres à gaz sont un point de détail de l'histoire.
Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Des affirmations qui lui vaudront une condamnation pour contestation de crimes contre l'humanité, mais qu'il réitérera à de nombreuses reprises tout au long de sa vie.
Vous confirmez, Jean-Marie Le Pen n'est pas antisémite, c'est que vous confirmez vos propos depuis le début.
Je ne dis pas ça. Je dis qu'il y a eu clairement une ambiguïté de Jean-Marie Le Pen.
C'est pas une ambiguïté. Il est antisémite.
Il est ou pas.
Comme
c'est ça, Philippe. En traitant les gens d'antisémites ou pas d'antisémites.
Il est ou pas, oui ou non, pour conclure. Oui ou non.
J'ai mon avis sur la question.
Voilà, dites-le.
Donnez-le nous.
Ici, en toute liberté.
Bah, vous pouvez nous le donner, oui ou non? Oui ou non?
Ouais, à titre personnel, je pense qu'il l'était, voilà.
Non. Merci, madame la députée.
Si cette députée a fini par concéder qu'elle trouvait Jean-Marie Le Pen antisémite, ce n'est pas la ligne officielle du parti. Jordan Bardella, lui, continue à maintenir que le fondateur du parti n'était pas antisémite, en dépit de toutes les archives.
Je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite.
Toute cette histoire antisémite, ni Marine Le Pen, ni Jordan Bardella, aujourd'hui, tous les deux à la tête du Rassemblement National, ne l'ont renié. Marine Le Pen, de son côté, assure, à rebours des faits dans le JDD, que dire que son parti a été créé par d'anciens collaborationnistes est un mensonge historique et que parler de l'antisémitisme de son père est une manipulation politique. Lorsqu'elle a pris la tête du parti en 2011, elle a d'ailleurs assumé l'histoire du Front National.
Comme pour l'histoire de mon pays, je prends l'ensemble de l'histoire de mon parti et j'assume tout.
Elle a également assumé des liens récemment avec de nombreux antisémites notoires. Elle a été proche de la figure d'extrême droite, Alain Soral, condamné pour injure publique antisémite. En 2012, elle s'est rendue à un bal néo-nazi, avec parmi les organisateurs une corporation interdite aux juifs et aux femmes. Elle a également provoqué la polémique en 2017, lorsqu'elle a nié dans l'émission Le Grand Jury la responsabilité de la France dans la rafle du Vel'd'Hiv de 1942.
Je pense que la France n'est pas responsable du Vel'd'Hiv. Voilà.
Ah, cette tendance à interpréter, nuancer, tordre l'histoire. Pourtant, les historiens ont bien montré que ce sont les policiers français qui ont interpellé puis concentré en juillet 42 au Vel'd'Hiv plus de 13 000 Français parce qu'ils étaient juifs avant de les acheminer à Drancy d'où ils partaient pour la mort.
Une responsabilité française reconnue par tous les présidents de la République depuis Jacques Chirac.
Ces heures noires souillent à jamais notre histoire. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français.
Comme l'avait révélé Mediapart, deux trésoriers de Marine Le Pen ont participé à une manifestation néo-fasciste en 2023. L'un d'entre eux, Axel Lousteau, était d'ailleurs connu pour avoir fait un salut nazi quelques années auparavant et serait obsédé par les Juifs et par Hitler. Ce n'est qu'après sa participation à cette manifestation d'ultra-droite le 6 mai dernier que Marine Le Pen a fini par désavouer cet ami encombrant. Le nom sulfureux d'un autre très proche de Marine Le Pen revient régulièrement, Frédéric Chatillon, l'ancien chef du GUD dans les années 90, comme l'explique cette enquête de Thierry Vincent pour Blast. Marine Le Pen n'était pas au GUD, mais elle faisait la bringue avec nous et était très amie de Chatillon, dit un ancien du groupuscule, qui décrit Chatillon comme un antisémite maladif.
Street Press, le 13 juin 2024, c'est donc tout récent.
Depuis 2011 et sa prise de pouvoir au Front National, Marine Le Pen a bien évincé certains des cadres les plus gênants du temps de son père, Jean-Marie Le Pen. Mais une nouvelle génération aussi radicale est déjà en place au RN. On y trouve des néo-fascistes, des monarchistes, des identitaires, ou certains membres passés par des groupuscules violents, dissous par le gouvernement. Et quand le RN se fait attaquer sur la présence de ces militants sulfureux, le parti explique que ce ne sont que des moutons noirs qui auraient échappé à leur vigilance.
Ces gens-là n'ont jamais été à la marge du Front National.
Sauf que plus d'une dizaine d'entre eux sont quand même salariés de députés français ou européens, comme Street Press l'a révélé dans une enquête fin novembre.
C'est vrai qu'on dit souvent que Assas est historiquement une fac de droite.
Chez les néo-fascistes, il y a par exemple Maïlys de Cibon. C'est l'assistante d'un des députés du Var, Philippe Schreck. Elle est responsable du syndicat d'extrême droite violent, la Cocarde, à Assas. Mais elle est surtout membre du groupe parisien Luminis. Eux, c'est des néo-fascistes qui assument leur suprémacisme. Quand ils font des distributions de nourriture, ils ne donnent qu'aux blancs.
Les militants d'ultra-droite excluent les SDF de confession musulmane en leur proposant des aliments à base de porc.
Parce qu'il n'y a que des SDF
blancs. Ouais, voilà.
Coblanc, en fait.
Ouais, bien sûr.
Un autre qui a côtoyé ce groupe et qui est au RN, c'est Vianney Van Der Cher. Lui, c'est le responsable du mouvement jeunesse du RN dans les Yvelines. Il a fait partie d'un groupe qui avait attaqué une manifestation féministe en 2021 à Paris. Il ne semble avoir aucun problème avec le néofascisme, comme le montre cette vidéo. On est en mai 2022, à Turin, à un événement du FUAN, la branche universitaire de Fratelli d'Italia, le parti d'extrême droite de Meloni qui dirige l'Italie. Ces militants transalpins ont invité quelques membres du RN à leur événement. Au cours de la soirée, ils font des saluts fascistes au son d'une chanson italienne anticommuniste. Devant cette scène, les attachés parlementaires français comme Vianney Van Der Cher sont hilares. Parmi tous les assistants du RN, il y a aussi Bastien Olingue, qui travaille avec le député et porte-parole du RN, Laurent Jacobelli. Lui a été responsable de Génération Identitaire en Normandie, un groupe dissous notamment pour ses actions violentes.
Cette association et certains de ses militants doivent être regardés comme tenant un discours de haine, incitant à la discrimination ou à la violence envers des individus en raison de leur origine, de leur race et de leur religion, c'est ce qu'avait dit le ministre de l'Intérieur.
Et au Parlement européen, Rémi Merin est l'assistant de Philippe Olivier, le beau-frère de Marine Le Pen.
Et donc l'actuel beau-père de Jordan Bardella.
Il a été un des piliers du bar identitaire lillois violent et raciste, la Citadelle.
Une immersion d'un an en caméra cachée dans le groupe Génération Identitaire à Lille est tournée en partie dans le bar La Citadelle. Propos racistes, éloges de la violence, menaces d'attentat. Trois hommes seront condamnés par le tribunal de Lille pour des faits montrés dans le reportage.
Le RN attire aussi des profils radicaux dans son mouvement de jeunesse, le RNJ. Comme Jason, adhérent du RNJ de la Marne. Sur Twitter, il publiait des tweets et des propos haineux comme « J'aime juste ceux qui tuent du bougnoul ». Dans sa section, tout le monde était au courant, mais il n'a jamais subi la moindre remontrance. Et toujours au RNJ de la Marne en 2023, le parti utilisait les mésos, des hooligans néo-nazis de Reims, pour coller leurs affiches. Dans le bureau national du RN, il y a aussi le porte-parole Jeanlin Lacapelle. Lui, c'est un membre du FN depuis les années 80. Il est d'ailleurs resté proche de certains de ses anciens cadres, comme Frédéric Chatillon et Axel Lousteau, deux amis de Marine Le Pen. Laure Lavalette est une autre cadre du RN, députée et porte-parole du parti. Son père était un membre du mouvement néo-fasciste Ordre Nouveau. Elle a adhéré au FN de Jean-Marie Le Pen en 1995 et a longtemps montré son opposition à l'avortement. En 2014, elle avait signé un texte qui demandait aux élus de soutenir des candidats à la présidence qui voudraient abroger ce droit.
Oui, mesdames, ce n'est pas la seule. À ce moment-là de la visite, on va s'attarder sur une cité du Var et son maire élu en 2014, Fréjus.
David Rachline, le vice-président du Rassemblement National, accro à la fête, au service de son clan, rongé par l'affairisme et le clientélisme.
Pastille de L'Obs, novembre 2023.
Je m'appelle Camille Vigan-Lequad, je suis grand reporter à L'Obs et je publie aux arènes Les Rapaces, un livre enquête sur la mafia varoise de Marine Le Pen. Alors David Rachline, c'est pas n'importe qui au Rassemblement National, c'est un très proche de Marine Le Pen. En 2022, elle le présente comme son meilleur ami sur les plateaux de télévision. C'est un des plus proches également de Jordan Bardella. David Rachline, c'est un historique du parti frontiste. Il est rentré au parti à 16 ans, il était absolument fan de Jean-Marie Le Pen, une sorte de père de substitution. Donc il a d'abord été extrêmement le péniste intégral, fidèle à Jean-Marie Le Pen, puis fidèle et loyal à Marine Le Pen. Et c'est cette fidélité, cette loyauté qui lui vaut aujourd'hui d'être protégé par la présidence du mouvement d'extrême droite, au point de ne pas vouloir voir ou entendre les soupçons d'affairisme qui pèsent sur lui. David Rachline au Rassemblement National, il est surnommé la pie ou l'arbre de Noël. D'autres m'ont dit aussi c'est une cagole. Il y a vraiment ce côté très méditerranéen, très varois, mais poussé à l'extrême de la personne qui veut montrer qu'elle a réussi à grand renfort et à grande débauche de marque et de luxe. Couvert l'existence de plusieurs montres. D'abord, une montre de la marque Hublot. Et ce qui est particulièrement révélateur, c'est qu'au cours de ces quasiment deux ans d'enquête, David Rachline va changer de version. Au début, il nie complètement avoir jamais eu cette montre. Il ne sait pas que je dispose de photos. Puis, qu'elle appartienne à son collaborateur. Puis, il nie l'avoir achetée. Finalement, il dit que c'est sa montre. Finalement, il dit que c'est son collaborateur qui l'a achetée en liquide. Finalement, il avoue avoir plusieurs montres alors qu'il m'a souvent dit qu'il n'en avait qu'une. Toute cette version évolue au fur et à mesure de l'enquête. Et ça dessine en fait un faisceau de mensonges autour du niveau de vie de David Rachline. On sait que David Rachline touche autour de 8000 euros par mois. C'est un très bon salaire, mais c'est un salaire qui n'explique pas toutes ces montres de luxe ou ce train de vie absolument fastueux. Faculté à s'abstenir des règles quand il faisait la fête, notamment dans son bureau de la mairie, qui a vraiment été pendant des années l'épicentre de soirées débridées et sans limite, à tel point que les administrés, les habitants autour de la place de la mairie de Fréjus avaient pris l'habitude de téléphoner au standard en plein milieu de la nuit de la mairie pour demander à ce que les nuisances sonores du maire cesse. C'est intéressant aussi parce que ces fêtes, elles n'ont pas complètement cessé pendant le confinement, elles ont continué, y compris en période de restrictions sanitaires, au détriment de règles. Et ça illustre en fait, au-delà de l'anecdote, une capacité à considérer que les règles et les lois sont faites pour les autres et que lui, son clan, ceux qui l'entourent à la mairie, peuvent s'en affranchir.
Comme le souligne Libération, David Rachline, lors de sa prise de fonction en 2014, a décidé de confier une partie de l'événementiel de la ville à un ancien légionnaire nommé Mintran Long, passé par la Fédération d'Action Nationale et Européenne, groupuscule néo-nazi, dissous dans les années 80.
David Rachline, quand il a été élu en 2014, 2014, il a fait campagne sur deux éléments, l'endettement de la ville et la fin du bétonnage. Sur ces deux piliers, on peut dire qu'il y a un échec factuel. Aujourd'hui, la ville de Fréjus est au moins autant endettée, si ce n'est plus, que quand David Rachline a récupéré la ville en 2014.
Un élu de position de droite est interviewé par C'est dans l'air fin novembre 2023.
Ici, nous sommes à Fréjus-Plage, qui est un quartier symptomatique de la ville de Fréjus, où les constructions fleurissent comme des champignons. Ce quartier, qui était jusqu'à présent un quartier un peu populaire, avec des petites maisons, etc., se trouve entièrement remplacé, se trouve densifié massivement par une politique de construction à tire-larigot voulue par M. Rachline et ses amis.
Alexandre Barbero, c'est un personnage qui est au cœur de mon enquête. C'est le patron du BTP de l'Est-Var. Il est tout puissant, là-bas tout le monde le connaît. Il n'est pas seulement à la tête d'une grosse entreprise de construction, mais aussi d'une holding qui regroupe des hôtels, des restaurants, un golf. C'est quelqu'un qui a énormément de pouvoir depuis plusieurs générations et qui a surtout une relation extrêmement ambiguë avec le pouvoir politique. C'était le cas avec les prédécesseurs de David Rachline, c'est aujourd'hui le cas avec David Rachline. David Rachline entretient une relation exclusive avec cet entrepreneur, faite de nombreux déjeuners, de week-ends, de sorties à la mer, de voyages à Monaco pour aller voir les Grands Prix de Formule 1. Avec cette famille Barbero, il y a un rapport extrêmement trouble. Des journées entières sont bloquées par David Rachline dans son agenda consacré à Alexandre Barbero. Ça pose une énorme question de limite, de distance, d'autant plus que cet homme a régulièrement été épinglé, notamment par la Cour régionale des comptes, pour avoir la mainmise, un monopole sur les appels d'offres dans la région. Donc ça, c'est du côté du public, mais si on regarde du côté des chantiers privés, il est aussi présent dans tous les grands chantiers de construction de l'Est-Var. Donc ça pose évidemment d'énormes questions.
Et là, on se rend compte que depuis 2014, on a ce phénomène concentrationnel au niveau des marchés,
sur les coulisses de Génération Identitaire en décembre 2020.
Qui interpelle, qui surprend David Rachline en réalité, et non pas n'a pas rompu avec le système antérieur, il a multiplié l'étard du système antérieur.
Une union des droites qui, au niveau national, reste soit un tabou, soit un fantasme. David Rachline, en contradiction avec ce que dit Marine Le Pen au niveau national, a mis en place une vraie entente, un pacte de gouvernance avec les élus, les Républicains du Var. Le premier concerné, c'est Frédéric Masquelier, le maire de Saint-Raphaël, la ville voisine de Fréjus, avec lequel il n'a pas seulement noué un pacte de gouvernance, mais aussi des accords en fonction des élections. Cette entente, elle se retrouve aussi au niveau du département, avec, chose assez incroyable, des élus du Rassemblement National qui votent l'intégralité des budgets du département, un département qui est présidé par un élu de droite. C'est en contradiction totale avec tout ce qu'on a pu lire et tout ce qu'on peut entendre sur le cordon sanitaire. J'ai interrogé Éric Ciotti à ce sujet, j'ai interrogé Marine Le Pen. Tous ne veulent pas voir ou disent qu'il s'agit d'un contexte purement local. Je pense que ce que ça révèle, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça et qui raconte beaucoup de l'évolution de la droite et de l'extrême droite aujourd'hui.
Les méthodes du clan Rachline seraient brutales. Ce centre social doit fermer ses portes dans quelques jours et selon ses bénévoles, c'est à cause de la baisse drastique des subventions accordées par la ville.
En 378 000 euros en 2018, 130 000 euros donc en 2019.
Aujourd'hui, on est à 55 000 euros de subvention de la ville de Fréjus par an.
Pourtant, tous ici estiment que l'action du centre est efficace. Créée en 2006, la structure offre des sorties et de l'accompagnement scolaire aux enfants du quartier.
J'ai quand même vu que dans le quartier, il y a moins de drogue, hein, c'est vrai. Il y a moins de drogue, il y a moins de deals. Il n'y a pas ce qu'on peut voir dans d'autres banlieues ou dans d'autres quartiers insécurisés. Les gens, ils ne se plaignent pas. Voilà, moi, c'est ça qui me rend triste, c'est de me dire qu'on a quand même réussi à faire quelque chose. Et puis d'un coup, on nous coupe la tête. Et ça, c'est ça m'attriste. Hein.
Si la gestion de Fréjus, c'est ça qu'on doit avoir en France, eh ben, on peut se faire du souci, quoi. Franchement, parce que tout est, il y a pas que les centres sociaux qui sont attaqués. Il y a toutes les autres associations, les associations qui sont pas d'accord avec le maire. Systématiquement, elles sont fermées.
On coupe la tête.
C'est une petite dictature ici.
Selon plusieurs témoignages, David Rachline se serait prêté à des saluts nazis avec un proche collaborateur au sein même de la mairie. Diffamation, ignominie, se défend l'élu, qui annonce porter plainte contre l'autrice du livre.
Le maire de Fréjus a également été filmé plus jeune en faisant une blague dans une Mercedes qui serait la voiture du Führer sans jamais être sanctionné.
Mercedes, la voiture du Führer.
La voiture du Führer.
En plus, c'est un dictateur, c'est un petit Napoléon, quoi. Comment on peut, à ce niveau-là, avec les responsabilités qu'on a, se laisser aller à ça? Ça me paraît surréaliste pour moi.
Bon, ok, admettons, ce sont tous là des cas particuliers. Gabriel Attal, notre Premier ministre, lors du débat du 28 juin dernier.
Je peux vous citer Monsieur Bourdoulex, qui a indiqué que, je cite, « Hitler n'a pas tué assez de tziganes ».
Je peux vous citer Madame Bargès, qui expliquait qu'un candidat noir sur sa liste est une tâche. Madame Saurin, qui explique que toutes les civilisations ne se valent pas. Monsieur Léonard Deli, qui a défendu les soupes aux cochons pour, dans les soupes populaires, éloigner un certain nombre de personnes de la solidarité.
Oui, bien sûr.
Monsieur Martin, qui a écrit sur Twitter que le gaz a rendu justice aux victimes de la Shoah.
Aujourd'hui, c'est un parti qu'on a du mal à attraper. C'est un parti qui consacre énormément d'énergie à lisser son discours, à modérer son image. Marine Le Pen apparaît aux yeux de beaucoup de Français comme une personnalité de plus en plus rassurante, ce qui n'était pas le cas auparavant. Par rapport à ça, je pense qu'il est extrêmement important, quand on est un journaliste qui suit ces questions-là, de s'intéresser non pas seulement aux discours qui, on le voit, sont très édulcorés la plupart du temps, mais aux faits. Et les faits, ça suppose de se pencher au cœur d'un exécutif local, ça suppose d'aller regarder les votes, ça suppose d'aller regarder que fait-on de l'argent, comment déploie-t-on ses services municipaux.
Ainsi se clôt cette 30e visite, un peu particulière, de la saison 7 du Panthéon des Cousus sur Radio Alpa, podcast et réécoute libre en ligne sur les bonnes plateformes et le site radioalpa.com. Mais ne nous quittons pas sans musique et sans ce titre de 2012 signé Rachid Taha. L'artiste franco-algérien avait au moins un point commun avec Jordan Bardella, une partie de sa famille est kabyle. Voilà que ça recommence, nous fait entendre des artistes de la belle diversité qui composent notre pays, dont Camélia Jordana et Oxmo Puccino. Bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa, je vous laisse avec cette citation de Saint-Exupéry dans ses carnets de guerre. Une démocratie doit être une fraternité, sinon c'est une imposture.
On les gagne toujours contre ceux qui sont les champions de l'ordre.